Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour le 15 avril 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde.
Martin, avant d'entrer dans notre sujet principal, est-ce qu'il y a des nouvelles financières ou économiques récemment qui ont retenu ton attention ou juste des nouvelles tout court?
on suit toujours de près tout ce qui se passe dans le conflit au Moyen-Orient, en Iran, avec le détroit d'Ormuz. Ceci dit, les marchés anticipent une résolution rapide et pacifique du conflit. Et puis, on voit les rendements cette semaine. Le TSX en hausse de 2,6%. Le S&P 500 rebondit de 5,3%. On parle quand même d'une hausse là, depuis le début du mois, 6,7% depuis le 1er avril. Du côté du Nasdaq, une hausse de 7,4% cette semaine, 9,5% depuis le début du mois d'avril. Même les marchés européens, asiatiques, là, comme avec le MSCI, EFI Index, là, 4,6 cette semaine, 5,4 depuis le début du mois. Donc, ça va très bien sur les marchés boursiers, de sorte qu'on est revenu, la baisse du mois de mars qu'on a subie, elle est déjà effacée. Le pétrole continue de reculer tranquillement, on est à 92 $ le baril. Même l'or s'était replacé un peu la semaine passée, puis on demeure là à ces niveaux-là, autour de 4 800. Plusieurs titres canadiens ont fait des nouveaux sommets. Donc, dans les titres que beaucoup de nos clients détiennent, là, la Banque TD, la Banque Royale, Savaria, là, vraiment très, très bon sommet. Ils ont tenu une journée pour les investisseurs hier avec leur plan quinquennal. Donc, ça aussi, c'était très bien reçu par le marché. Aecon Group, des sommets historiques, Brookfield Renewable également. Mais ce qui retient le plus mon attention, c'est le CN et TFI International, deux entreprises de transport. Souvent, ce sont des titres qui sont très, très annonciateurs du futur de l'économie. Donc, le tout passe par le transport. On n'est pas revenu au sommet de 2024 dans le cas du CN et de TFI International, mais on est quand même à un sommet de l'année. Donc ça, je trouve ça quand même assez révélateur là, de voir que même les titres de transport se comportent bien. Souvent, quand on anticipe une récession, c'est les premiers titres qui vont baisser, mais c'est aussi les premiers titres qui remontent quand ça semble, d'un point de vue macroéconomique, là, s'améliorer. Donc, les nouvelles sont bonnes cette semaine. On continue donc de se croiser les doigts, que ça se poursuit, que les esprits se calment et que le conflit au Moyen-Orient se résorbe dans la paix.
Merci beaucoup, Martin. Justement, aujourd'hui, on va prendre un pas de recul. On vous propose un épisode peut-être un peu plus global et aussi, on va parler de quelque chose que nous, dans nos rencontres d'équipe, on discute. Donc, la semaine dernière, tu as amené ça à l'équipe et on trouvait que ça pouvait être intéressant pour notre balado aussi. Donc, il y a un rapport qui sort, c'est le JP Morgan Guide to Market. C'est disponible en ligne. Beaucoup des professionnels utilisent cet outil-là. Et nous, on voulait le partager avec nos clients cette semaine. Donc, c'est vraiment notre épisode aujourd'hui, c'est comment lire les marchés à la lumière de ce guide-là. Donc, Martin, pour commencer, c'est quoi au juste le Guide to the Market et pourquoi on en parle?
Ben, le Guide to Market, donc c'est essentiellement, c'est un PowerPoint, là, c'est une présentation PowerPoint de 68 planches publiées par la plus grosse banque américaine, JP Morgan. Donc, c'est disponible uniquement en anglais. C'est un document là, américain qui va un peu faire état des données économiques. Donc, c'est toutes sortes de graphiques, de statistiques et de tableaux sur l'état de l'économie, de l'activité financière, les obligations, les taux d'intérêt, ainsi de suite. Donc, c'est pas des opinions. Là. JP Morgan, dans ce guide-là, n'émet aucune opinion. C'est juste, on prend une photo de la situation actuelle et passée. On peut, puis c'est à nous de tirer des parallèles et des conclusions face à ça. Mais donc, c'est un outil qu'on regarde. C'est publié et mis à jour trimestriellement pour le public. Il y a des versions payantes là, qui sont mises à jour mensuellement, mais la version le trimestrielle est tout à fait adéquate. Puis c'est vraiment, tu sais, bon, sur 68 slides, il y en a peut-être 20 qui nous intéressent, puis 48 un peu moins, mais les 20 qui nous intéressent sont très intéressants. Donc, on s'y réfère là, souvent pour aller voir un petit peu les perspectives possibles.
Et pour ceux qui sont confortables avec les graphiques et à lire les graphiques, c'est intéressant. Pour d'autres, ben on vous fait l'interprétation.
Puis, c'est juste, c'est les données, là. S'il n'y a pas d'opinion là-dedans, c'est ça les faits. Donc, oui. C'est à nous de tirer nos propres conclusions après ça avec ces faits-là.
Donc, qu'est-ce que le guide nous dit sur la conjoncture actuelle?
Bon, on a parlé beaucoup d'évaluation durant l'année. Les marchés sont chers, les marchés sont élevés. Ben là, ce qu'on constate depuis quelques temps, ben, c'est que les évaluations sont beaucoup plus raisonnables. Donc, quand on parle d'évaluation, on va mesurer est-ce qu'une entreprise est chère ou abordable en fonction d'un multiple par rapport au profit par action. Donc, le ratio cours-bénéfice, le couramment. Donc, quand le ratio cours-bénéfice est élevé, on va dire que le marché est cher. Puis, typiquement, ben, quand le marché est très cher, les rendements futurs ont tendance à être moindres. Ben, on est passé d'environ 23 fois les bénéfices au début de 2025. On est à 19,7. La moyenne des 30 dernières années, c'est 17,2. Donc, on est encore plus élevé que la moyenne. Par contre, beaucoup moins plus élevé. Donc, on est revenu statistiquement, là, s'il y a des actuaires qui écoutent, là, à l'intérieur d'un écart type de la moyenne. Donc là, on est dans une zone là, où on est un petit peu plus confortable. Le top 10, donc quand on décortique le S&P 500 aux États-Unis, il y a 500 compagnies donc dans le S&P 500. Les 10 plus grosses sont toujours à 23 fois les bénéfices, mais les 490 autres sont à 18 fois les bénéfices. Donc quand on va même un petit peu plus creux dans le marché, on se rend compte que les évaluations sont quand même, somme toute, assez raisonnables. Un des points d'interrogation là, demeure la concentration du marché. Donc, quand on est un investisseur indiciel, il faut quand même savoir ce qu'on achète. Qu'est-ce qu'il y a dans l'indice? Bien, le top 10 représentait 42% de l'indice S&P 500. Historiquement, là, c'est plus ou moins 20%. Donc, très concentré dans les Mag 7, puis bon, JP Morgan, puis Berkshire Hathaway. Là, essentiellement, c'est ça le top 10. Là, on est redescendu à 38, mais on est quand même très concentré. Donc, au niveau de la gestion indicielle, tu sais, peut-être un petit point d'interrogation, là, de faire attention, c'est quand même très concentré.
Puis, peux-tu parler de c'est quoi la gestion indicielle pour ceux qui...
Oui, donc gestion indicielle passive, les FNB, les ETF, là, tous des termes presque interchangeables, là, c'est pas tout à fait la même chose, mais beaucoup de gens utilisent ça. Gestion à faible coût, on achète un indice tout simplement, puis là, ben, on copie un panier statique de compagnie. Il n'y a pas de décisions qui sont prises, il n'y a pas de changements qui sont faits. On détient les bonnes et les moins bonnes. Donc, le fait qu'on a moindre frais, ben, ça l'aide un peu la performance. Par contre, c'est à voir. Là. Est-ce que dans un marché concentré comme celui-là, les indices pour les 10, 15, 20 prochaines années vont mieux performer que la gestion active? Ça dépend. Tu sais, historiquement, il y a du pour et du contre dans les deux cas. Puis je pense que de jumeler les deux, on le fait là, pour tout le monde, de jumeler le passif et l'actif ensemble, c'est toujours pertinent.
Donc, les marchés boursiers, pourquoi les rendements restent-ils si forts, peut-être?
Tout revient à la rentabilité des entreprises puis à la performance financière des entreprises. On a beau s'inquiéter de toutes sortes d'événements géopolitiques, fondamentalement, pourquoi qu'on achète des entreprises? T'sais, pourquoi quelqu'un se part une compagnie? Ben, pour faire des bénéfices puis nourrir sa famille. Donc, quand on achète une entreprise en bourse, qu'on achète Microsoft, la Banque Royale ou le dépanneur au coin de la rue, l'objectif, c'est de faire des profits. Et si les profits de ces entreprises-là continuent d'augmenter, même s'il y a toutes sortes de conflits, ça fait que la bourse va généralement augmenter. Si on regarde la croissance du S&P 500, les marges bénéficiaires sont en hausse de 8,9%, les revenus en hausse de 8,1%, les entreprises ont racheté de leurs actions, donc on partage le bénéfice avec moins d'actionnaires, 0,3%, ça fait qu'on a une croissance anticipée des profits de 16,6%. Est-ce que ça va se matérialiser exactement? L'économie peut changer. Mais fondamentalement, c'est une croissance des bénéfices qui est quand même très élevée et ça justifie quand même la croissance là, du marché récemment. Si on regarde du côté de la concentration, on parlait de bon, le top 10 qui représente une grosse partie, ben, les sept plus grandes entreprises, les sept magnifiques, croissance anticipée des bénéfices de 26 %, alors que les 493 autres, 14 %. 14, quand même très bon, là, tu sais.
Oui.
Donc, mais oui, les sept magnifiques ont une croissance plus élevée. On paye quand même pour cette croissance-là. Là. Les ratios cours-bénéfices, on l'a vu tout à l'heure, du top 10 sont plus élevés que le reste. Ben oui, la croissance est là, mais on paye plus cher aussi. Historiquement, donc, on a quand même aussi du côté des taux d'intérêt, bon, on a des rendements qui demeurent, qui sont moins élevés qu'ils l'étaient, mais on a quand même des rendements là, qui sont plus élevés que la moyenne. Fait que ça aussi, ça fait que t'sais, la performance des portefeuilles se comporte bien parce qu'en bout de ligne aussi, notre portion revenu fixe performe quand même un petit peu mieux.
Mais parlons de ce portion de revenus fixes, donc d'obligations, de dettes. Est-ce que le guide suggère qu'on est dans un nouveau régime de taux?
Ben, un petit peu, hein, on était un peu habitué avec des taux là, historiquement super bas. Hein. On se souvient des hypothèques à 1,8 %, puis les pauvres épargnants, là, je me souviens qu'on faisait des CPG 5 ans à 0,5 % là, durant la pandémie. Donc, tu sais, là, on ne peut pas dire que c'est fini pour toujours, là, mais pour l'instant, les indications, c'est qu'on est dans un nouveau régime de taux, peut-être un peu plus normal, où on va avoir des taux d'intérêt de, tu sais, sur l'épargne, 3,5-4 %. Si on, du côté des hypothèques, là, quand on a une hypothèque autour de 4 %, là, ça devrait être un bon taux, là, tu sais. Le 2, là, en tout cas, moi, je m'anticipe pas que notre reste d'hypothèque va finir à être.
On s'est habitué, par exemple, très rapidement.
C'est habitué, on a bien aimé ça. Mais, et ce qui est important, c'est que la page 43 là, du Guide to Market, pour y revenir, ben, détermine qu'il y a une corrélation extrêmement élevée entre le rendement futur des obligations et le taux de départ. Certaines logiques aussi avec ça. Donc, quand on regarde la période de 2010-2020, c'était des périodes de très faible taux d'intérêt historiquement. Donc, quand on regarde là, les indices obligataires, tu sais, ça donne mal au cœur, là. Tu dis, OK, mais sur 5 ans, je fais 0 % avec mon indice obligation universelle au Canada. Ben, c'était quoi le taux d'intérêt il y a 5 ans? Ah oui, la Banque du Canada avait baissé les taux à zéro en fond, pour un peu répondre à la COVID. Ben là, on part à des taux de 4, 4,5 %. Donc, on devrait avoir normalement pour les 5, 10 prochaines années une portion obligataire qui performe beaucoup mieux. Et là, comme je mentionnais, les taux ont baissé par rapport au sommet d'il y a un an ou deux, mais on demeure quand même beaucoup plus élevé que la médiane des 30 dernières années. Donc, ça, notre. T'sais, quand on regarde le marché des actions qui est légèrement un peu cher, pas exagéré, mais un petit peu cher. Par contre, le marché obligataire, entre guillemets, il n'est pas cher. Là, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, il y a quand même une opportunité de ce côté-là pour un investisseur un peu plus prudent, de ne pas se gêner d'avoir des obligations de portefeuille. Ça ne va pas nuire à la performance.
Puis c'est le fun pour nos investisseurs, mais pour nos jeunes qui achètent des propriétés, c'est peut-être un petit peu plus difficile que l'environnement qu'on a eu durant la COVID,
C'est
etc.
sûr.
Si on résume tout ça, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les investisseurs? Parce que des statistiques, c'est le fun, des tableaux puis des graphiques, c'est le fun, mais qu'est-ce que ça signifie pour nos clients?
Ben, bon, la diversification, c'est plus important que jamais. C'est toujours, on va toujours peser sur ce clou-là, taper sur ce clou-là, demeurer diversifié. Les obligations, ben, reprennent un peu leur rôle dans le portefeuille d'équilibrer. Puis la discipline à long terme demeure cruciale. Une des planches qui est intéressante, 59, ben, quelle est si j'ai un portefeuille 60-40, là, 60 % en actions, 40 % en obligations, puis j'investis pendant un an seulement, ben mon expérience, c'est que je peux faire du moins 37 à du plus 52. T'sais, ça, c'est 100 % en action. Un 60-40, c'est moins 20 à plus 34.
Ouais.
N'importe quelle année. Donc, c'est ça le range, l'écart entre les meilleures et les pires années. Mais si j'allonge sur 5 ans, historiquement, là, donc je prends toutes les périodes de 5 ans, puis je les déplace un mois à la fois, donc il y a des centaines de périodes de 5 ans. Ben, le pire scénario d'un portefeuille 60-40, c'était de faire 1 % le meilleur scénario, 20%. Donc, tu sais, excellente performance. Sur 10 ans, ben là, je suis, tu sais, entre guillemets, là, je dis ça, tu sais, avec beaucoup d'ironie, on est quasiment garanti de faire de l'argent, là. On est 1% sur 10 ans, on est positif 1%, 16% par année au maximum. Et si on investit pour 20 ans, le minimum, c'était 5%. Par année. Ben, t'sais. Donc, l'objectif, c'est pas d'essayer de faire le meilleur rendement possible cette année. L'objectif, c'est d'être un investisseur pendant 10 ans, 20 ans et de presque se garantir un scénario positif. On peut pas dire que ça va être 20, 10, 15, 5, mais statistiquement, si on investit sur une période de 10 ans et plus, les probabilités qu'on perde de l'argent avec un portefeuille diversifié 60-40, les statistiques démontrent que c'est assez faible. Donc, peu importe les scénarios, dans toutes ces périodes de 10 ans qui ont été étudiées, il y a eu des guerres, il y a eu des pandémies, des récessions, il y a eu toutes sortes d'affaires. Puis pourtant, les scénarios disent qu'on va terminer avec un rendement positif si on demeure discipliné.
Donc, les marchés ne sont jamais parfaits, mais ils sont prévisibles dans leur imprévisibilité.
Exact.
Comprendre l'histoire des marchés aide énormément. Je pense que ce rapport-là nous aide à avoir un peu de perspective. Et ça nous aide aussi à éviter les mauvaises décisions émotionnelles. Donc, on revient vraiment au concret, aux données. Merci beaucoup, Martin, pour avoir interprété tous ces graphiques pour nous. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions sur votre portefeuille, la diversification, l'impact de le contexte économique actuel sur votre situation personnelle, notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, est toujours là pour vous accompagner. À très, très bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.